l'éducation peut me rendre plus intelligent. Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
De réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il va y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Détendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'ai pu un aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Voilà, 19h passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Comme tous les jeudis, de 19 à 20h, vous retrouvez l'équipe du jeudi emmenée par Delphine.
Oh oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Laurent.
Bonsoir. Et nous allons faire le tour de l'actualité façon Radio Canu et façon Canu Info du jeudi pour cette semaine. Avec une petite introduction de ma part autour de la compromission et de l'affaire Tariq Ramadan et de la bataille Mediapart contre Charlie Hebdo. Ensuite, on parlera un peu de Mauritanie, on parlera un peu d'Égypte, on parlera un peu de Chine. Et on parlera des tartuffes et des mensonges autour de l'environnement, on parlera du Liban, on parlera de la République en marche et de son mépris de classe et de son mépris donc du coup des pauvres, on parlera d'Azerbaïdjan, d'Israël, de sexisme. Voilà pas mal de sujets pour ce Canu Info. Je commence tout de suite par la petite introduction du jour qui fait suite donc à l'affaire dont on avait parlé de Tariq Ramadan et des plaintes pour agression sexuelle le concernant. Donc vous avez peut-être vu la une de Charlie Hebdo, qui comme d'habitude fait dans la provocation. C'est normal, ça fait partie de la tradition des hebdomadaires, enfin des journaux satiriques, en mettant en scène Edouard Plenel, l'ancien directeur du Monde, membre éminent du monde médiatique parisien et un grand libéral dans l'âme, et donc patron de Mediapart, patron de Mediapart aujourd'hui. Voilà, on le voit en train de se cacher, de fermer les yeux, de se faire boucher les oreilles, à l'image de ces trois singes, la traditionnelle des pays asiatiques. Je ne vois rien, je n'entends rien autour de l'affaire Tariq Ramadan, puisque lui, il a été grand défenseur, en tout cas le site de Tariq Ramadan. Alors, des gens le défendent, parce que alors lui, il a répondu par l'attaque, hein, en comparant la une de Charlie Hebdo à l'affiche rouge donc des nazis contre le groupe Manoukian, hein, de résistants communistes. Donc là, on est vraiment dans l'attaque un peu plus basse. Charlie provoque, lui répond par la haine vraiment très cinglante, hein, en comparant Charlie aux nazis. Je sais plus comment ça s'appelle, là, mais très vite, dans les échanges, on va aux nazis. Eux, Mediapart, c'est la première réponse, c'est directement, on compare Charlie aux nazis. Ce qui situe un petit peu le niveau, hein, de Mediapart et d'Edouard Plenel. Alors par exemple, moi j'ai lu quelques exemples de défense, on dit... Il y a ceux qui justifient, qui reprennent la défense d'Edouard Plenel et qui disent par exemple pour avoir croisé deux fois Tariq Ramadan et s'être retrouvé à débattre avec lui à l'occasion d'une invitation lancée en 2015 par une association musulmane, voici Edouard Plenel et Mediapart avec lui à être accusés d'être les idiots utiles des barbus intégristes. Ouais, alors c'est pas si simple que ça, hein. On rappellera que Edouard Plenel a toujours eu un discours hyper bienveillant sur l'islam, qui fait partie des journalistes qui ont popularisé l'idée que quand on critique l'islam on est forcément raciste. Du coup, lui, il critique pas l'islam, voire il le soutient. Il accepte notamment que ce texte, le texte fondateur de ces religieux, de ces croyants, porte une incitation, plein d'incitations à tuer des mécréants, c'est-à-dire des athées, c'est-à-dire Delphine, moi et peut-être vous derrière votre micro. Donc ils sont pour la peine de mort et pour l'assassinat. Et du coup, en soutenant ces gens-là, il est pour la peine de mort et pour l'assassinat, ce journaliste. Ça va quand même très très loin. D'ailleurs, on le voit dans les gens qui l'invitent ou qui défendent, il a jamais invité des gens qui défendent un islam radicalement modifié, radicalement moderne, ouvert, ceux qui veulent enlever certaines parties du Coran et qui veulent être ouverts. Jamais. Il a toujours fait des choses proches de gens qui sont proches des frères musulmans, c'est-à-dire d'un islam homophobe, anti-athée, ultra-agressif. D'ailleurs, je crois qu'un de ses livres a été édité indirectement par les frères musulmans à l'étranger. Ça situe un petit peu le personnage. Alors, ceci dit, quand on voit ses accusateurs, bon, notamment Manuel Valls, on a envie d'être du côté de Plenel quand même, parce que là, c'est un peu compliqué quand de se retrouver du même côté que Manuel Valls. Donc du coup, mon cœur balance. Hein, je suis entre les deux. Je déteste les deux. Je pense que c'est plus simple comme ça. C'est réglé. Dans la défense de Mediapart, ils disent, mais attendez, on a fait une très longue enquête sur Tariq Ramadan, hein, qui est une enquête réalisée par Mathieu Magnodex, en 5 parties, où ça expliquait un petit peu qui était Ramadan, la doctrine, etc. Alors, et on n'avait rien vu, on n'était pas au courant des agressions sexuelles, des relations sexuelles avec ses étudiantes, tout ça. Hein. Alors, c'est quand même un peu bizarre. Alors d'abord, quand on lit l'enquête, c'est quand même assez peu critique sur l'idéologie et la dangerosité de l'idéologie portée par l'homophobe Tariq Ramadan. Il faut quand même déjà voir les choses. Ça allait pas très loin comme enquête, malgré soi-disant les 5 volets, etc. Alors, on sait qu'ils font partie des gens qui aiment Tariq Ramadan, qu'ils portent au nu. Mais alors, la question qui reste finalement à travers tout ce qui se passe là, c'est comment est-ce possible que des mecs qui se prétendent journalistes, qui prétendent avoir fait une grosse enquête en 5 parties, des milliers de lignes ou des centaines de lignes de texte, qui n'aient rien vu des frasques et des agressions sexuelles, rien entendu sur ces frasques et ces agressions sexuelles. C'est quand même bizarre. Surtout que en parallèle, vient de sortir une enquête de Raphaël Baquet. Alors, elle avait fait une enquête à cette époque-là, à peu près, un peu avant, sur Tariq Ramadan. Et dans son enquête, effectivement, c'était pas sorti, les agressions sexuelles. Sauf que elle, depuis, elle s'est exprimée. Elle a dit si. Moi, j'ai les témoignages, et notamment là, les témoignages qu'elle a publiés aujourd'hui dans Le Monde, enfin, récemment dans Le Monde, de la deuxième victime officielle qui est reconnue, de Tariq Ramadan. Elle dit, ben voilà, celle qu'elle l'a rencontrée et qui raconte son agression, voulait pas qu'on en parle. Donc, elle en avait pas parlé. Mais elle dit bien, j'étais au courant. Donc elle fait son mea culpa quelque part. Et aujourd'hui, elle fait son vrai métier de journaliste en balançant les choses réelles. Ce que fait pas Mediapart. Voilà. Donc bon, voilà. Sauf qu'il y a quelques petits indices qui laissent entendre que Mediapart ment. Notamment dans les mots utilisés par Magnodex dans ses articles. Et notamment il dit « Ramadan est connu pour être un bon vivant ». Alors pour ceux qui ont connu la presse autrefois, quand on mettait qu'un politique était un bon vivant, c'était en général pour dire, alors c'était, je rappelle, c'est avant l'affaire DSK. Depuis, on est moins tabou sur les agressions faites par les puissants, les politiques ou les gens médiatiques. Mais quand on disait que c'était un bon vivant et qu'on laissait entendre que c'était sur le sexe, eh ben c'était soit un libertin, ce qui est voilà défendable, enfin ce qui est pas attaquable, soit un prédateur sexuel. Donc le fait qu'il utilise ce terme, il est connu pour être un bon vivant, ça laisse entendre quand même qu'il avait perçu des choses. Et effectivement, quand on lui pose des questions sur les réseaux sociaux, Magnodex répond « Oui, j'avais entendu parler de relations extra-conjugales, d'une vie sexuelle, disons, remplie, mais pas d'agression. » Alors c'est bizarre quand même. Ce mec, il fait des articles, un gros reportage sur Tariq Ramadan, vraiment un gros dossier. Il entend parler de vie sexuelle ultra-remplie, de plein de choses, d'aventures extra-conjugales. Alors que Tariq Ramadan, il a un discours hyper rigoriste, hyper régressif sur le sexe, sur le droit, sur la liberté sexuelle, etc. Et il n'en parle pas dans ses articles. C'est quand même ultra bizarre. ultra louche. Alors au final, on sent qu'il y a une vraie complaisance envers Tariq Ramadan, une vraie volonté de ne pas révéler ce qui pouvait tacher le discours de l'islamologue. Bon, ça ressemble quand même à de la compromission de la part de Mediapart et de ses journalistes, et pas simplement d'Edoui Plenel, mais qui était au courant parce qu'il avait aussi lu les articles. Voilà. Donc bon, sinon. Si c'est pas ça, il y a une autre excuse, ben ça veut dire qu'ils sont incompétents, ces gens. C'est-à-dire que la journaliste du Monde, elle avait les infos, ils n'ont pas été capables de les avoir. Bon, vu ce qui traîne dans les articles du journaliste de Mediapart, ça ressemble plus à de la compromission et à de l'envie de pas tâcher leurs amis plutôt qu'autre chose. Voilà. En tout cas, c'est très très triste, cette affaire, qui démontre qu'une fois de plus, les puissants, les gens médiatiques, quand ils agressent des femmes ou des hommes d'ailleurs, eh ben ils sont vite protégés, et notamment par certains journalistes, comme c'est le cas d'Edoui Plenel et du site Mediapart.
Alors, le point que tu cherchais, c'est le point Godwin, mais oui, en fait, c'est la loi. Hein, mais par simplification, on appelle tous et toutes ça le point Godwin. Et moi, je vais faire une petite remarque. Les unes de Charlie Hebdo ne sont pas forcément dans la provocation, parfois. Mais c'est aussi la caricature, c'est de dénoncer par le dessin un certain nombre de choses. Et donc, oui, des fois, c'est tu rentres dedans. Là, ça l'était, mais ça l'est pas toujours. Voilà. Je vais commencer avec une petite page internationale, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. On va commencer avec la Mauritanie. Je vais vous parler de Mohamed Cheikh Ould Mohamed, autrement appelé aussi Cheikh Ould Mohamed Ould Mekhtir. Si vous voulez bien, on va l'appeler Mohamed. Mohamed, c'est un Mauritanien, il a la trentaine, et il était condamné à mort pour un article écrit sur son blog, un article jugé blasphématoire. Et on a appris, heureusement, aujourd'hui, que cette condamnation à mort avait été ramenée à 2 ans de prison par la cour d'appel. C'est toujours, évidemment, pour nous, 2 ans de prison de trop, quand on parle de blasphème, bien évidemment. Alors, il faut revenir en arrière. Il était en détention depuis janvier 2014, donc c'est fait qu'il a purgé sa peine. Mais avec la peine, il a aussi une amende qui représente à peu près 146 euros. Il avait donc été arrêté en janvier 2014, suite à cet article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Il faut savoir que Mohamed, il est musulman. Et le 24 décembre, la cour criminelle le reconnaît coupable d'apostasie, le condamne à mort. En 2016, la cour d'appel avait confirmé la peine de mort, mais en requalifiant les faits de mécréants.
Hein, comme moi.
Oui, voilà. Mais tout ça avait en fait été à chaque fois, il avait eu des soucis, puisqu'à chaque fois le ministère public revenait sur tout ce qui pouvait se passer. Et hier, le ministère public avait de nouveau requis la condamnation à mort, qui avait été cassée par la Cour suprême. Alors je vais changer de micro. Voilà, comme ça, celui-ci devrait mieux marcher. Dans son réquisitoire, le procureur avait estimé que même si Mohamed s'était excusé, c'est-à-dire qu'il avait pendant le procès exprimé, je cite, tout son repentir et ses excuses, et qu'il avait rappelé qu'il avait foi en Allah et en son prophète, le procureur n'avait pas réussi, accepté les excuses de Mohamed, et donc avait demandé la peine de mort en expliquant que, je cite, le prophète a bien excusé de son vivant ceux qui lui ont tenu des propos similaires, mais il n'est plus là parmi nous pour accorder sa grâce, et nous devons appliquer la sentence extrême contre le fauteur. Donc, globalement, il fallait punir Mohamed, quoi qu'il arrivait. Heureusement, vous voyez, les choses ont changé. Mais 2 ans de prison pour un texte jugé blasphématoire, c'est quand même beaucoup trop. D'autant plus que dans ce papier, il faut savoir que Mohamed, il était soutenu par Amnesty International, par Human Rights Watch. Et en fait, les organisations rappelaient que dans son texte, Mohamed voulait surtout critiquer l'utilisation de la religion pour attaquer une partie de la société en Mauritanie. Mohamed, il fait partie des Malmines, ce qui veut dire forgeron. Il expliquait qu'en fait, sa communauté était attaquée et que les gens se servaient de la religion pour continuer à les attaquer. Donc en fait, c'était plus un rapport à la lutte de classe qu'une attaque sur le prophète. Et c'était aussi pour ça que les organisations demandaient l'abandon des poursuites. Voilà, il n'y a pas eu de peine capitale appliquée en Mauritanie depuis 1987, on espère bien que ça va continuer. Alors, nous allons parler un petit peu d'Égypte, si vous le voulez bien. Alors, je vous rappelle que dans le dernier rapport du Human Rights Watch, l'organisation estime qu'il y a des sévices sur les détenus politiques qui sont très très importants et qu'il y a un crime contre l'humanité. Je vous rappelle que Monsieur Macron a reçu Al-Sisi, c'était le 24 octobre dernier, c'était un mardi, et que globalement, bon ben, ça a pas trop causé quand même hein, droit de l'homme. Hein, ça a d'ailleurs été largement critiqué. On en avait parlé ici. Aujourd'hui, c'est Amnesty International qui s'inquiète de ce projet de loi qui pourrait criminaliser l'homosexualité en Égypte. Alors vous allez me dire, il y a des homosexuels qui aujourd'hui sont criminalisés et jugés. Oui, la différence, elle est subtile. C'est que en fait, l'homosexualité, c'est pas en soi une faute qui est qui est devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'en général, vous êtes jugé parce que on vous va parler de débauche, de prostitution. Voilà, c'est-à-dire qu'on va contourner en fait les faits pour amener les homosexuels à être devant la justice. Et donc, ce qui fait que depuis déjà un petit moment, il y a eu beaucoup de répression en Égypte sur les homosexuels. Il faut se souvenir que en septembre dernier, il y a le groupe libanais qui s'appelle Machou Leila. Si vous connaissez pas, je vous laisse aller écouter sur internet. Le public Machou Leila, ils sont interdits maintenant en Égypte, mais ils sont aussi interdits en Jordanie. Le public avait sorti les drapeaux arc-en-ciel et ça a pas du tout plu en Égypte, parce que c'est vrai que ça a amené une visibilité, et puis ça a amené une envie aux homosexuels d'exister. Et donc, le truc, c'est que depuis, il y a une forte répression. A priori, suite au concert de Machou Leila, il y a eu 30 personnes qui auraient été arrêtées suite au concert. Amnesty International parle de 70 personnes. Donc, voilà, en Égypte, il y a quand même encore des soucis. Et puis, on a la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme en soutien avec Cairo Institute for Human Rights Studies qui ont déposé aujourd'hui, ce jeudi 9 novembre, au pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris, une dénonciation de faits relatifs à la participation de l'entreprise française Amesis, qui est devenue depuis Nexa Technologies, aux opérations de répression menées par le régime Al-Sisi. Je cite le communiqué, via la vente de matériel de surveillance. Alors c'est une affaire qui date quand même depuis 2011, cette entreprise française Amesis, qui depuis donc a changé de nom, qui est attaquée. Mais là, donc les deux organisations ont décidé d'aller plus loin et de déposer donc cette dénonciation, puisque c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui dans le monde aident les États à réprimer les populations. Donc c'est un moyen de enfin faire un petit peu la lumière sur tout ça. Et puis on a appris aussi aujourd'hui, ou c'était hier, excusez-moi, que Ala Abdel Fattah, qui est un opposant égyptien, qui est un blogueur, que sa peine de 5 ans de prison est confirmée par la Cour de cassation. À la base, il avait pris 15 ans. Alors, il n'était pas tout seul. C'était 25 autres Égyptiens qui, en fait, étaient sortis en manifestation en 2013 pour protester contre les procès militaires de civils. Alors, il y a une partie des autres arrêtés qui, depuis, ont été graciés. Mais lui, c'est, on va dire, la personne qui est vue comme le leader. Je dis pas du tout le chef, mais celui qui est le plus en vue. Donc, lui, il continue à rester en prison. C'est dommage, puisqu'il va fêter le 18 novembre prochain ses 36 ans. Donc, il est encore bien jeune pour être incarcéré de cette manière. Voilà, donc pour l'Égypte, c'est pas bien drôle. Et puis, très rapidement, juste pour dire qu'il y a un nouveau mort en Chine, un nouvel opposant. C'est Guan Tongyang. C'est un écrivain, un blogueur, un opposant et un activiste chinois. Il avait pris 12 ans de prison et il est mort, comme Liu Xiaobo, pour absence de soins, c'est-à-dire que juste avant la fin de sa détention, l'État chinois l'a rendu à sa famille, l'a relâché, mais ne l'a jamais traité pendant ses années de détention. Et donc, en fait, il est mort tout simplement parce que, en prison, il a ses maladies, parce qu'il a été plusieurs fois malade, il n'a pas été soigné, donc il est mort, en fait, de ça. C'est un nouvel opposant en Chine qui meurt de cette manière-là. C'est c'est assez tragique, puisqu'il faut savoir qu'il y a la femme de Lu Chabao, qui s'appelle Lucia, qui elle aussi est en danger. Il y a plein de gens comme ça que l'État chinois ne soigne pas lorsque les gens sont en prison. Et on dit que c'est une grande prison aussi à ciel ouvert, la Chine, puisque même quand les autorités relâchent les gens, ben, ils sont pas loin de la mort. Donc voilà, j'avais aussi envie de parler de Yang Tongyang aujourd'hui.
Alors, on va poursuivre avec un petit mot sur Nicolas Hulot et les différentes tartufferies et traîtrises de ce sombre personnage, puisque aujourd'hui, il y a quelques jours, il a annoncé que les promesses du candidat Macron, la loi votée sous Hollande et tout ce que lui avait pu dire, il le mettait de côté. C'était au sujet de la transition énergétique et de la sortie, alors pas de la sortie mais de la baisse un peu du nucléaire, qui devait passer de 75% aujourd'hui à 50% dans 7 ans. Alors en fait quand la loi a été votée, c'était 10 ans après, hein, on avait largement le temps, que ça serait vraisemblablement difficile voire pas possible. Ah bon, merci. Si on rappelle qu'il avait annoncé en juillet dernier passer de 75% d'électricité d'origine nucléaire à 50% d'électricité d'origine nucléaire, ça nécessitait la fermeture de 17 réacteurs sur les 58 en activité officiellement. En fait, faut savoir qu'il y en a déjà 20 d'arrêtés là cet hiver qui sont en maintenance. Hein, donc en fait, il y a jamais les 58 tournent pas bien en ce moment. Voilà. Alors, vous allez me dire comment il justifie ce nouveau renoncement, ce revirement. Lui s'appuie sur un rapport de RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF, qui dit que c'est trop court pour sortir, pour baisser autant le nucléaire. Ça voudrait dire qu'on est obligé de garder les 4 centrales à charbon et de construire des centrales à gaz, et donc du coup on respecte plus ce qu'on a signé lors de la COP21 sur le climat. Donc c'est pas possible. Alors comme Monsieur Hulot semble pas très intelligent, il a pris ce rapport, il l'a lu, puis il l'a accepté tel quel. Il n'a pas fait de vérification scientifique, il n'est pas allé voir d'autres études. Du coup, il dit, voilà, aujourd'hui, c'est plus possible. On n'arrivera pas à atteindre l'objectif des 50% d'électricité d'origine nucléaire maximum. Voilà. Bon, on savait qu'il n'était pas particulièrement scientifique, pas particulièrement intelligent. Mais là, on avait l'impression qu'il avait quand même des convictions, et en fait, pas du tout. Comme d'habitude, il a fait semblant. On rappelle que ça tient pas la route, hein, ce qu'a dit RTE. D'abord, les décisions sur la baisse du nucléaire, elles datent d'il y a un certain temps. Alors, et peut-être que en 3 ans, rien n'a été fait, mais ça, c'est de la faute des gouvernements. Et si rien n'est fait, rien ne changera jamais. Et que la volonté de sortir rapidement, de diminuer rapidement l'influence du nucléaire est possible, l'Allemagne l'a démontré. Donc voilà, bon, bref, c'est relativement triste ce qu'annonce Nicolas Hulot. Il devrait aller voir le site negawatt.org et là, il aurait des infos scientifiques aussi avec de belles démonstrations et pourrait peut-être comprendre. Voilà, bon, c'est un éternel tartuffe de la politique, de l'écologie, comme c'était déjà un tartuffe de la télévision. Voilà, et ceux qui ont cru en Nicolas Hulot n'ont plus qu'à se taire et à pleurer tendrement chez eux. Avec leur électricité nucléaire. Et alors, justement, sur l'affaire de l'électricité nucléaire, on a un article qui est paru hier dans le journal L'Humanité, qui est un bel article de mensonges et de désinformation. Je vous le présente tout de suite. L'article s'appelle L'énergie nucléaire. 2. Hulot enterre l'impossible pari de François Hollande. Alors rien que dans le titre, on sait déjà que le pari de François Hollande n'était pas possible. Bizarrement, quand l'Allemagne fait le même pari, c'est possible. Quand la France le fait, c'est pas possible. On rappelle que historiquement, l'humanité était toujours pro-nucléaire, pro-croissance, pro... Alors ils ont changé sur certains domaines de l'écologie. Ils sont un peu plus sensibles à l'écologie. Mais ça reste des productivistes, hein, au niveau des journalistes et de la ligne éditoriale de l'humanité. Donc là, l'article, il est écrit par Gérard Le Puil, il est paru donc hier sur l'humanité.fr, je ne sais pas s'il est paru sur le journal papier. Alors je cite deux extraits de l'article. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a évoqué les dates de 2030 et 2035 pour réduire la place des centrales nucléaires à hauteur de 50% dans le mix énergétique. Quelques éditorialistes ont ironisé sur la position de ce ministre écologique contraint d'avaler des couleuvres. Mais d'autres, plus au fait des réalités, osent évoquer les vrais enjeux. Et là, il nous cite 2 exemples. Dans l'Est républicain, Philippe Marcassi note qu'en 2011, l'Allemagne s'est voulue exemplaire en renonçant au nucléaire. Seulement voilà, faute d'alternative, la montée en puissance des énergies renouvelables se fait attendre. Elle a massivement recours à des centrales au charbon. au point que l'Alsace est aussi polluée par les rejets des centrales d'Outre-Rhin. Deuxième argument, pour le quotidien L'Alsace, Laurent Baudin fait grosso modo le même constat que son confrère régional quand il écrit « dans ces circonstances, la France, comme la Suisse et l'Allemagne, n'avaient d'autre solution pour tenir ses objectifs de réduction de la part du nucléaire que d'accroître la production des centrales à gaz et à charbon, synonymes d'émissions massives de CO2. Solution impensable pour la France, dont les dirigeants se vantent d'avoir sauvé la planète à l'occasion de la COP21, etc. etc. » Alors, les deux arguments sont faux, donc l'Allemagne n'a pas augmenté le charbon. Le charbon diminue en Allemagne. Alors il diminue très peu, hein, on est entre 2 et 3% de baisse. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement le nucléaire est en train de disparaître totalement en Allemagne, et contrairement à ce qu'il dit où ils mettent la montée en puissance des énergies renouvelables se fait attendre, pas du tout. En Allemagne, elle ne se fait pas attendre. Ça a augmenté énormément. À des moments, on est à 44% d'électricité d'origine renouvelable en Allemagne. Le problème de l'Allemagne et de la transition énergétique de l'Allemagne, c'est qu'elle n'a concentré ses efforts que sur le remplacement du nucléaire. Elle a rien fait contre le charbon. Donc elle a pas développé du charbon, mais elle a pas vraiment diminué de charbon. Elle a fermé quelques centrales, mais c'est pas un mouvement d'ampleur. Donc on peut critiquer la transition énergétique de l'Allemagne, qui va arriver à sortir du nucléaire d'ici quelques années sans problème, en disant, bah maintenant l'Allemagne, il faut aussi sortir du charbon. Et ça, c'est un autre problème. Mais raconter que l'Allemagne a augmenté la production de ses centrales à charbon et le nombre de centrales à charbon, c'est bien évidemment totalement faux. Il y a une volonté de fermer les centrales à charbon en Allemagne, même si on est loin de l'ampleur du nucléaire. Et à la conclusion de l'article, je cite toujours l'Humanité, « Les accidents de Tchernobyl et Fukushima nous ont montré que la vigilance de tous les instants est indispensable pour assurer la sûreté des centrales nucléaires. La France dispose d'un solide savoir-faire dans ce domaine, à condition d'en donner les moyens financiers. » Voilà. Bon, bref, ils sont pro-nucléaire, ils trouvent qu'il n'y a pas de danger en France, il y a eu plein d'accidents, les centrales sont de plus en plus vieille, il y a eu plein d'escroqueries de la part d'Areva sur la qualité des aciers, mais pour le journaliste de l'Humanité, ça pose aucun problème. Voilà, un bel article pro-nucléaire, plein de mensonges et plein de non-dits. Bon, c'est un article de propagande, hein, de l'industrie nucléaire à travers ce journaliste. C'est historiquement, hein, on rappelle, c'est dans la tradition du journal. Ils ont jamais lu les études de l'ADEME, ils ont jamais étudié les études du réseau Négawatt, ils sont jamais allés voir un peu plus loin. A priori, il est pas très scientifique non plus, le journaliste, sinon il serait posé un peu plus de questions. Voilà, parce que, contrairement à ce qu'il dit, le nombre d'accidents augmente tous les ans en France, dans les centrales. On a eu 2 accidents de niveau 2 cet été. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut basculer dans l'horreur, hein, parce qu'on rappelle que les centrales japonaises étaient aussi performantes, voire plus performantes que les centrales françaises, et pourtant ça a pété. Donc voilà. Et puis dans les tartufferies, les rigolades, c'est la rigolade du glyphosate, hein, dernière étape aujourd'hui, puisque il y avait la réunion au niveau de la Commission européenne pour décider si il y avait une autorisation de cet herbicide cancérigène probable le plus vendu dans le monde. Et il y a eu un vote, il n'y a pas de majorité. Alors faut savoir que le vote, en fait, il y a 14 pays qui ont voté pour et 9 qui ont voté contre. On se dirait, bah donc du coup ils sont pour le renouvellement du glyphosate. Non, sauf que c'est une majorité qualifié, donc c'est le nombre, chaque pays a un poids par rapport à la population de ce pays. Et du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas de majorité qualifiée pour faire passer ça. Donc c'est la suite au prochain épisode, vraisemblablement fin novembre. Il y a encore un peu d'espoir que ce produit cancérigène soit retiré. Mais on sait qu'il y a de telles pressions. On rappelle quand même que Monsanto investit 300 000 euros minimum par an dans le lobbying au niveau de l'Union européenne. Bien évidemment, il n'y a aucune organisation citoyenne et écologiste qui a les moyens d'investir autant d'argent pour faire du lobbying à Bruxelles. Donc ça explique pourquoi Monsanto est plus fort que les citoyens. Mais ça, vous connaissez le capitalisme. Tu nous parles du Liban ?
Oui, on n'a aucune logique, hein, ce soir dans notre déroulé. C'est autant vous prévenir, puisqu'on revient à l'international. Alors, la logique est où au Liban ? Là, on se demande encore ce qui a bien pu se passer, hein, puisque vous avez peut-être entendu cette annonce assez surprenante, hein, j'ai failli tomber de ma chaise personnellement. Nous avons donc appris samedi que M. Hariri, Saad Hariri, le Premier ministre libanais, démissionnait. Et il n'a pas annoncé ça de Beyrouth, non, il était en Arabie Saoudite, et c'est un discours qui a été retransmis par la chaîne Al Arabia, basée à Dubaï. Donc c'est un peu tout ça surprenant. Alors c'est une démission complètement inattendue, ça faisait un an hein, qu'il était là à ce poste-là, monsieur Hariri, poste dont personne ne veut aujourd'hui, hein, soyons très très clairs aussi là-dessus. Alors monsieur Hariri explique qu'en fait il a peur pour sa vie, qu'il se sent visé. Alors là il parle évidemment du Hezbollah, hein, qui je vous rappelle est largement mis en cause dans l'assassinat en 2005 de son père Rafik Hariri, lui-même ex-premier ministre, hein. C'est pour ça qu'en fait il aurait démissionné. Mais alors c'est un grand bazar, parce que pour une partie des médias libanais, c'est l'Arabie Saoudite qui a forcé monsieur Hariri à démissionner. D'ailleurs l'Arabie Saoudite aurait emprisonné monsieur Hariri. Alors ça c'est ce que racontent certains médias, mais évidemment tout de suite l'Arabie Saoudite a démenti retenir monsieur Hariri. Mais il faut dire qu'aussi les médias saoudiens, que ce soit les télés ou la presse, ont beaucoup parlé de cette affaire. Hein. Ça a tourné en boucle dans les télés. La presse saoudienne a fait sa une dessus des dimanches. Bon, alors, il faut aussi se souvenir que la famille de Saad Hariri vit en Arabie Saoudite. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va revenir et où est-il ? Alors, mardi, on a eu des nouvelles de M. Hariri, puisqu'il a tweeté. Il était à Abu Dhabi, donc il a fait circuler une photo de lui. Et puis après, on a perdu sa trace. Alors, dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a un avion qui a atterri à Beyrouth. Et les gens, les médias locaux ont cru que monsieur Hariri était dans cet avion. A priori, donc c'était pas le cas. Le problème, c'est que il y a Michel Aoun, hein, qui est le chef de l'État libanais, qui attend le retour de monsieur Hariri pour prendre des décisions et prononcer sa démission. Parce qu'il y a une question de savoir, c'est est-ce que cette démission, elle est valable d'un homme politique premier ministre qui annonce sa démission dans un autre pays avec sur un média satellitaire basé à Dubaï, tout ça, c'est quand même un peu la panique, il faut le dire. Encore une fois, dans la classe politique libanaise. Alors, quand on parle de panique, il faut savoir que si vous allez sur certains sites de presse, je ne sais pas si vous connaissez L'Orient Le Jour, par exemple, qui est une presse francophone libanaise, si nous, on avait un Premier ministre qui allait annoncer sa démission en allant, je ne sais pas, en Belgique, par exemple, il y aurait sur les sites de BFM, du Figaro et Le Monde des grands articles avec des points d'exclamation. Là, sur ce site-là, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont l'habitude, au Liban, quand même, hein, d'avoir un petit peu quelques soucis. Mais même le Hezbollah a dit, ben on va attendre en fait qu'ils reviennent pour savoir ce qu'on fait. Donc il y a une attente. Le problème, c'est que M. Hariri n'a pas l'air de vouloir dire est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'il rentre, comment ça se passe. A priori, pour lui, il a démissionné, ça c'est fait, il ne va pas revenir dessus. Mais comme je vous le disais, qui va prendre sa place? Ça avait déjà été difficile de trouver un Premier ministre qui, finalement, c'est lui un petit peu qui avait été. Donc il y a un grand, grand flou quand même hein, au Liban. On en parlera peut-être la semaine prochaine si on en sait un peu plus.
Allez, on va parler un peu du mépris de classe mis en œuvre par les élus, les adhérents de La République En Marche, le parti de Emmanuel Macron, avec deux petites infos. La première, c'est suite à une interview donnée par Damien Adam à Paris-Normandie. Alors c'était le 4 novembre, c'était passé totalement inaperçu. Puis aujourd'hui, un cadre du PS s'en est ému de cette interview et l'a mis sur son blog. Et du coup, ça a été repris et diffusé par plein de gens qui doivent plus lire le blog de ce cadre du PS plutôt que ce Paris-Normandie. Et du coup, ça fait un petit, pas un buzz, mais voilà, on a eu à nouveau des propos hyper méprisants de la part d'un élu de La République En Marche. Il faut savoir que Damien Adam, élu donc de la Seine-Maritime, c'est la figure typique du petit bourgeois qui a réussi professionnellement. Hein. Il est issu des cadres du monde de la banque, là c'est pour le Crédit Agricole, qui ont été attirés par Emmanuel Macron, grand libéral s'il en est. Donc dans cette interview, en tant que petit cadre, petit bourgeois et élu de La République En Marche, il est interrogé sur ce qu'il pense du statut des demandeurs d'emploi et sur la possibilité de durcir les conditions de contrôle des chômeurs, comme dit l'article, au risque de faire face à la fronde des partenaires sociaux. Et il répond, Ce n'est pas une question de sévérité, mais plutôt de définir les règles claires et comprises par tout le monde. Car quand vous êtes salarié et que vous voyez certaines personnes qui partent en vacances aux Bahamas grâce à l'assurance chômage, il est légitime de se dire que ce système marche sur la tête. Nous souhaitons que les demandeurs d'emploi se disent que la nation leur fait confiance à condition de respecter les règles. Alors premièrement, quand on utilise le mot « nation », c'est mal parti, hein, c'est qu'on est plutôt d'extrême droite. Je rappelle, c'est pas la nation qui fait l'assurance chômage, c'est un système qui est alimenté par les cotisations des travailleurs et des travailleuses. Rien à voir avec du nationalisme, parce qu'on peut cotiser sans avoir la nationalité française. Voilà, et il reprend un peu les propos de Christophe Castaner, hein, qui dit que voilà, les chômeurs, c'est des feignants qui partent en vacances. Alors lui, il dit aux Bahamas, donc ça situe un peu le niveau. Vous regarderez les prix pour partir aux Bahamas, un peu, ça vous donnera une idée. Alors, si on regarde les vrais chiffres, bien sûr, tout ce qu'il dit, c'est un pur mensonge. Hein, 44% des personnes qui cherchent un emploi n'ont pas d'indemnité chômage. Hein, donc, c'est à peine plus de la moitié qui touche des indemnités. Et encore, parmi celles qui touchent les indemnités, une très faible partie pourrait partir aux Bahamas. Et on a le chiffre très exact qui était donné par le Figaro en 2016, qui avait analysé les chiffres issus d'un rapport de l'UNEDIC. C'est 0,04% des bénéficiaires qui touchent le max, c'est-à-dire un peu plus de 6000 euros par mois, qui peuvent partir aux Bahamas. Sinon, la moyenne des chômeurs, ils touchent 1100 euros par mois. Alors vous imaginez, 1100 euros brut. Vous touchez 1100 euros brut par mois. Vous avez un loyer à payer. Vous avez à payer de quoi manger aussi, peut-être un abonnement de bus ou des choses comme ça. Eh ben, il vous reste pas les moyens de partir aux Bahamas. Donc voilà, Monsieur Damien Adam ne se rend pas compte de la réalité des chômeurs. On rappelle que la majorité des chômeurs se rapproche plus du pauvre que du riche cadre de la banque qu'il est et qui peut partir, lui, aux Bahamas, et notamment en tant qu'élu, on rappelle qu'il gagne une fortune, lui, en tant qu'élu. Et puis, dans la série La République en marche, ce sont tous des escrocs, ou presque. Vous vous rappelez, ils ont fait passer cette loi sur la moralisation de la vie publique, hein, qui était initiée par Macron, qui a supprimé les emplois familiaux. Donc, très bien, c'était beau, ils ont tous voté pour. Sauf que ils trichent. Ils ont trouvé des astuces. Donc, au lieu d'embaucher leurs propres enfants, leurs propres cousins, leurs propres femmes, ben, ils s'arrangent entre eux élus et ils disent « Toi, tu peux embaucher ma femme pendant que moi, j'embauche ton fils. » Oh, c'est beau quand même la tartufrite ou la magouille, hein, du côté de La République En Marche. On fait des grands discours comme ça, très moralistes, et puis par derrière, ben, on est juste immoral. Alors, on a des exemples, hein, je vais en citer que deux, il y en a plus. Christophe Aran, député de La République En Marche de Moselle, qui est aussi poursuivi pour harcèlement sexuel. Ça n'a rien à voir, hein, mais bon, il a plusieurs affaires sur le dos, le Christophe Aran. Lui, il a embauché Charlie Trisse, qui est la fille de Nicole Trisse, elle-même députée En Marche, elle aussi de Moselle. Donc il n'a pas embauché sa fille, mais la fille de sa camarade. Il y a aussi Bertrand Sor, qui est élu de la Manche, qui emploie Maryle Vignal, qui est fille de Patrick Vignal, député de La République En Marche de l'Hérault. Donc voilà, on s'arrange entre eux. Bon, bref, c'est magouille et compagnie. On a des grands discours moraux sur les pauvres qui sont des profiteurs, sur les anciens politiques qui profitaient, qui magouillaient. Et en fait, c'est juste pareil, sauf que eux, ils assument même pas, Marc, les autres assumaient pas non plus. Donc voilà, quelques petites infos sur La République En Marche, qui est tout sauf exemplaire.
Alors, on va reparler à l'international, on part en Azerbaïdjan. Alors, je sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, 9 novembre, c'est la journée du drapeau national en Azerbaïdjan.
Ah oui, alors qu'en France, c'est la journée des violences à l'école, pas des violences, du harcèlement à l'école.
Donc, je parle d'Azerbaïdjan.
C'est plus, c'est
voilà,
moins glorieux.
Excuse-moi, journée du drapeau national en Azerbaïdjan, ça tombe aujourd'hui. Pour rappel, l'Azerbaïdjan occupe la 162e place sur 180 dans le dernier classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières.
Bon, ils font le concours pour être le dernier, quoi, en gros.
C'est ça. Et alors, moi, je croyais que, vous savez, le mât à drapeau le plus haut du monde, il était en Corée
du Nord.
Et ben, il paraît que c'est en Azerbaïdjan.
Parce que, alors, en Corée du Nord, il y a un mât qui est hyper haut, avec un gros drapeau qu'on voit de la Corée du Sud.
Alors, en tout cas, celui qui est officiellement reconnu comme étant
le plus haut du monde,
il est en Azerbaïdjan. Bon,
bravo.
Écoute, voilà.
Respect.
Bravo, respect. En tout cas, vous vous souvenez certainement que l'équipe de Cache Investigation était attaquée par par les autorités d'Azerbaïdjan pour un reportage et des propos qui dataient du 7 septembre 2015. Il faut savoir que lors de cette émission, Lise Lucet lançait un reportage sur les voyages présidentiels de Monsieur Hollande et une grosse partie était consacrée à l'Azerbaïdjan. Et en lançant le sujet, Madame Lucet parle d'une dictature, l'une des plus féroces au monde. Laurent Richard, l'auteur, hein, le journaliste qui a réalisé ce reportage, était sur France Info le matin pour parler de ce reportage et il avait présenté Ilham Aliyev, le président d'Azerbaïdjan, comme dictateur et un despote. C'est les deux mots qu'il avait employés.
C'est assez réaliste hein, comme description.
Alors, tu peux y aller, tu peux le dire. Hein,
parce que je ne serai pas poursuivi.
Mardi, le tribunal correctionnel de Nanterre a jugé irrecevable la procédure intentée par l'État d'Azerbaïdjan contre France Télévisions, puisque Delphine Ernotte était attaquée avec les deux journalistes. Donc, pour avoir qualifié l'État de dictature, ça ne fonctionne pas. Le tribunal a estimé que un État ne pouvait pas juger après coup d'un reportage, qu'il y a la liberté de la presse et que tout ça n'est pas possible. Du côté de l'État d'Azerbaïdjan, l'avocat a dénoncé un déni de justice, hein, tout de même. Quand
ah,
même.
Il s'y connaît sur justice en Azerbaïdjan.
Ah bah oui. Alors moi j'ai trouvé quand même quelqu'un, enfin j'en ai trouvé plusieurs, mais je vais vous parler de Jean-François Mancel. C'est un ancien député Les Républicains, donc les faux républicains, un ancien député de l'Oise, président des Amis de l'Azerbaïdjan, une belle association de soutien à la dictature, donc en Azerbaïdjan, qui continue encore à soutenir le régime en expliquant que l'Azerbaïdjan n'est pas une dictature féroce. C'est vrai, c'est juste une dictature.
Voilà,
si moi, je le lis comme ça, en fait.
On peut enlever le féroce, c'est une dictature. Tout
voilà, je suis... Voilà. Alors, il explique qu'en fait, c'est marrant, ce moyen de soutenir des États comme ça. Donc, il donne en fait une interview aux Parisiens que vous pouvez retrouver, qui date du 7 novembre 2017, sur le site internet leparisien.fr, où il explique « Jamais personne n'est blanc ou noir ».
C'est alors, facile quand on dit ça. Ouais.
C'est facile, du coup, donc on peut soutenir le régime, il n'y a pas de souci. Alors qu'en plus, il prend en exemple les Panama Papers, il y a des révélations tous les jours, donc...
Oui, alors...
C'est pas si grave, enfin, c'est les comparaisons qui ne servent à rien, écoute, hein, c'est pas moi. Hein. Et alors j'en ai trouvé d'autres, c'est sur le site causeur.fr.
Oui, un grand site.
Oui, vous n'êtes pas obligé de le lire.
Non, c'est ça.
Je vous invite pas. C'est un des fondateurs, hein, avec Elisabeth Lévy et François Miclot, qui s'appelle Gilles Méali. Je suis jamais sûr de la prononciation de son nom, qui a écrit un papier le 31 octobre dernier, qui s'appelle Azerbaïdjan, le Caucase compliqué. Bakou avance à son rythme. Donc là, la défense, c'est qu'en fait, c'est une jeune nation et que la démocratie, que c'est quand même un truc compliqué à mettre en place et que c'est normal qu'on limite la démocratie pour pouvoir l'installer progressivement.
Alors progressivement, donc ils se sont fixés 50 000 ans pour arriver à installer la démocratie. Donc ils avancent, voilà, très 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 doucement. Non, mais c'est n'importe quoi. On peut avancer à la vitesse qu'on veut. On peut faire tomber un régime du jour au lendemain par une révolution. Et c'est du jour au lendemain que ça tombe. Hein. Donc en quelques jours et quelques semaines, on fait tomber un régime, on le remplace par un régime mieux et ça marche. Et d'ailleurs, les dictatures sont capables de faire tomber les démocraties en quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours. Et elles installent aussi leur système très rapidement. Donc c'est pas du tout réaliste politiquement ce qu'ils disent sur juste des gens qui soutiennent la dictature.
Le dernier paragraphe qui est en fait l'idée que tout le monde reprend hein, dans les soutiens à l'Azerbaïdjan, il écrit « On a le droit d'émettre des doutes, voire de critiquer le système politique azerbaïdjanais, mais il faut d'abord prendre la peine de l'étudier et le connaître, de prendre pleinement connaissance du contexte, de l'histoire, de la géopolitique et de l'anthropologie d'une société dont l'objectif est de rester souveraine et indépendante pour pouvoir se rapprocher à son rythme de l'Europe et de l'Occident. » Wow, bravo, bravo, bravo. Alors moi je le renvoie à cette lettre conjointe d'ONG sur la situation des droits humains en Azerbaïdjan, excusez-moi. C'est un courrier qui a été signé, qui date du 27 octobre dernier, c'était dans le cadre du sommet du partenariat oriental. C'est un texte qui a été signé par 37 organisations, tout de même, hein, quand même, 37 organisations internationales, et qui appelait les membres de l'Union européenne à sanctionner un peu plus durement l'Azerbaïdjan et d'arrêter de vouloir en faire un partenariat économique important pour l'Union européenne et d'obliger l'Azerbaïdjan à respecter les droits humains.
Alors je vais parler un peu de culture et je vais parler de Boy George. Boy George, c'est l'incontournable incontournable chanteur de Culture Club, groupe qui ne doit plus exister, mais qui a sorti des tubes dans les années 80 avec deux albums phénoménaux. Bon, Georges était en concert à Tel Aviv mardi soir, donc Tel Aviv, capitale d'Israël. Et il a eu droit à quelques petites critiques sur Internet d'activistes pro-palestiniens ou défenseurs du boycott des entreprises israéliennes. Donc, notamment, qui compare souvent à ses justes valeurs, avec de bonnes raisons, ce qui est en place aujourd'hui dans l'État juif et ce qui existait sous l'apartheid de l'Afrique du Sud, même si la situation est bien pas identique. Et voilà. Mais il y a quand même des points communs aujourd'hui, un vrai régime d'apartheid en Israël pour différents habitants. Donc, lui répond. Et quelqu'un lui pose la question, est-ce que tu aurais donné un concert en Afrique du Sud? Et lui répond, je cite, j'aurais pu, mais cela s'est pas fait. J'aurais gagné beaucoup d'un tel concert. On se dit, putain, mais il est complètement débile, le pauvre gars, ou il a un souci. Après, il dit, Israël est dans mon cœur, c'est une équation complètement différente. Alors, je sais bien, c'est différent, Israël et l'apartheid. Mais enfin, bon, quand même, il y a des limites. On va pas discuter de ce qu'on doit jouer ou pas jouer en Israël. S'il joue, il peut mettre un petit discours politique aussi sur la colonisation. Non, a priori non. Alors, il continue, il dit, moi, je joue pour mes fans, pas pour les politiciens. Je n'ai jamais regardé aucune personnalité politique en me disant, ouais, vous parlez pour moi, le flux des énergies positives est la clé. Alors là, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il avait pris de la drogue, ce qui lui ressemble un peu, ceci dit. Voilà. Bon, après, il y a d'autres internautes qui l'ont dit, mais on est déçus que vous ayez joué en Israël. Vous pourriez vous impliquer dans le mouvement BDS, donc de boycott des investissements et sanctions, mouvement qui incite à boycotter Israël tant qu'Israël colonise illégalement la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et là, il répond, je suis déçu par votre tweet, aussi par le fait que vous êtes absolument rien que vous ne faites absolument rien pour aider une personne ou une autre cause, ou une cause. Votre énergie est négative. On se dit non, mais en fait, il doit avoir deux de QI, Boy George, c'est triste. Parce qu'il semble oublier la situation en Israël, la colonisation, mais aussi, et ça devrait le concerner, le développement très important de l'homophobie en Israël. On rappelle que les religieux ont de plus en plus de place, que Tel Aviv, c'est à peu près le seul lieu sûr pour les homosexuels en Israël, et qu'ailleurs, c'est très compliqué. Vous êtes né dans une communauté religieuse, vous pouvez pas assumer votre homosexualité. Il est homosexuel, Georges, jusqu'à preuve du contraire. Il devrait être concerné par cette problématique-là, et non, il soutient Israël, il soutient l'État d'Israël, et les dérives qui sont en train qui sont apparues il y a une quinzaine d'années, qui continuent de se développer, de la dérive du côté de l'extrême droite religieuse de l'État d'Israël. J'ai trouvé ça juste triste, parce que j'aimais bien Boy George et Culture Club. Et voilà, ça manque un petit peu de culture, de connaissances, d'implication politique, et ça sent, il est prêt à collaborer finalement avec n'importe qui pour faire des concerts. Hein, triste, quand même, triste.
Alors, vous avez peut-être entendu que Ridley Scott, pour son prochain long métrage All the Money in the World, a décidé d'effacer Kevin Spacey, qui est quand même accusé de plusieurs agressions.
Tout à fait.
Donc, Ridley Scott a décidé de l'effacer, de remplacer Kevin Spacey par Christopher Plummer. Donc, des scènes vont être en fait rejouées. Ouais. On va pas aller gommer la tronche de Kevin Spacey. Donc, il y a quand même des décisions qui sont prises comme ça aux États-Unis d'Amérique concernant plusieurs réalisateurs, producteurs, acteurs de les enlever des projets soit actuels soit qui vont bientôt arriver sur les écrans aux États-Unis d'Amérique.
Alors, Kevin Spacey, on sent que ça va très vite. Alors ça va beaucoup plus vite que pour d'autres. C'est quand même assez bizarre ce qui se passe.
Moi, je pense que Ridley Scott, il faut pas oublier que c'est quelqu'un qu'on apprécie assez peu en tant qu'être humain ici dans ce Canu Info. On reviendra si vous voulez un autre jour dessus. Mais je sens qu'il y a quand même derrière le commercial. Son film n'est pas repoussé. Hein. Il sort bien là en décembre, donc bah, il y a du pognon en jeu, donc il le remplace, ça va très très vite. Mais c'est vrai qu'en France, par contre, on est un peu lent. Hein. Je vais plutôt m'attaquer à la Cinémathèque française, parce que ça m'énerve ce lieu. Il faut quand même bien le dire, mais je suis pas la seule, donc ça me rassure. Vous avez donc entendu qu'il y a eu cette rétrospective hommage à Roman Polanski, qui est quand même accusé de viol et d'agression sexuelle, hein, non, sur des mineurs.
Et sur des mineurs, oui.
Voilà. La Cinémathèque française a décidé de maintenir cet hommage et cette rétrospective. Il y a eu une manifestation, un rassemblement devant la Cinémathèque le jour de l'inauguration, de l'ouverture, excusez-moi, de cette rétrospective. Et puis on avait appris que pour aller encore plus loin, la Cinémathèque, comme la Cinémathèque française aime les hommes, aime les agresseurs, aime les violeurs, avait décidé dès janvier de poursuivre une rétrospective avec un autre agresseur. Il s'agissait de Jean-Claude Brissot. Heureusement, c'est non pas annulé mais repoussé. Et c'est ça qui est dramatique. C'est cette rétrospective de Jean-Claude Brissot, elle n'est pas annulée, elle est juste repoussée, mais on ne sait pas à quand. Il faut savoir que Jean-Claude Brissot a été condamné deux fois pour harcèlement et agression. C'était en 2005 et en 2006. Ça concerne plusieurs comédiennes, plusieurs actrices. Donc lui, pour le coup, il a été condamné. Hein, donc voilà. Alors moi, les gens qui me disent « Oui, mais vous savez, il a été condamné, c'est fait. Il a le droit maintenant de reprendre sa vie. » Bah non. Bah non.
Si, mais il a le droit de reprendre sa vie.
Oui, mais on n'est pas obligé de lui faire une rétrospective et un hommage.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est parce que là, du coup, on médiatise quand même quelque chose, on le met en avant. Ou alors le faire intelligemment. C'est-à-dire dire, voilà, là, ces films, on vous passe ces films, c'est très très bien. Attention, en gros, il n'est pas respectable, c'est un agresseur.
Sauf que Jean-Claude Brissot, dans ses films, il vante l'agression et le harcèlement sur les femmes et sur les mineurs. Donc, c'est-à-dire que même dans son cinéma, c'est un cinéma de violeurs et d'agresseurs. Donc, à un moment, faire une rétrospective sur ce cinéma-là artistiquement, moi, ça me pose quand même un tout petit souci. Et puis, ce qui me pose aussi souci, c'est que la Cinémathèque française a donc repoussé cette rétrospective dans un souci d'apaisement. C'est-à-dire que c'est même pas une prise
de conscience.
Il faut savoir que la Cinémathèque française, c'est que des mecs. Hein, le directeur général, les présidents, tout ça, ça a toujours été que des mecs. Donc à un moment, il faut peut-être aussi se laver le cerveau et arrêter de nous prétendre que l'histoire du cinéma, c'est une histoire d'hommes. Et donc il va falloir faire avec. Ben non, il y a des femmes depuis maintenant de nombreuses années, plusieurs décennies, qui font du cinéma et on peut aussi les mettre en avant, échanger notre discours et puis arrêter de vouloir vanter ces hommes-là qui sont des agresseurs et vouloir leur donner un hommage. C'est quand même assez scandaleux. Et puis je vais faire une remarque, j'ai pas bien compris moi qu'on fasse une rétrospective Roman Polanski. Là je vais parler artistiquement, il faut reprendre un petit peu sa carrière. C'est pas un bonhomme à qui on a besoin de faire un hommage artistique. Ça veut dire qu'il y a quand même une envie aussi de soutenir Roman Polanski. Et en France on a des intellectuels hommes qui aiment soutenir Roman Polanski. Et c'est aussi pour ça qu'on fait une rétrospective.
Il a quand même fait des films bien, jusqu'au pianiste hein, qui est, voilà.
Non mais même, enfin
si,
bon,
si,
écoute,
mais quand même, quand
faut
même.
Arrêter voilà. Je vais terminer avec une affreuse chose, si vous n'avez pas vu les images, je vous invite à aller sur internet. C'est l'ATP, vous savez, on parle de tennis, avec le partenaire Red Bull qu'on fait un événement pour un tirage au sort pour la première édition des Next Gen Finals qui devait avoir lieu à Milan, qui vont avoir lieu à Milan. Et donc là, c'était des joueurs de tennis, qui, il faut savoir que c'est une première édition qui concerne des moins de 21 ans. Donc ce sont des petits jeunots. Et on les a mis dans des situations où, pour aller savoir dans quel groupe hein, ils allaient jouer, vous savez, parce qu'après, hein, ils jouent, donc on fait un tirage au sort pour savoir qui va rencontrer qui. Et ben on les avait mis en face de femmes. Et donc, il fallait qu'ils aillent piocher dans le décolleté, dans le collant. Ah si, si, je te jure, sous la jupe. Et on les a mis dans des situations absolument horribles. Alors certes, ces jeunes hommes n'étaient pas obligés de faire ces gestes-là, sauf que ce sont des jeunes hommes et on a bien compris qu'il y en avait qui s'étaient fait avoir en fait, qui savaient pas ce qu'ils foutaient là, parce qu'il y avait des caméras, des photographes, de la foule, du monde, et on les a mis dans des situations aberrantes. Et après moi j'aimerais bien savoir pourquoi des femmes acceptent aussi de faire ça. Là moi ça me pose quand même tout un tas de questions, mais enfin globalement on a quand même là encore une affaire de bonhomme avec Red Bull et l'ATP qui inventent donc un système où on met des jeunes hommes dans des situations où on va sexualiser du tennis. C'est du grand n'importe quoi. Alors ils se sont excusés, mais alors les excuses, on n'en a rien à péter. C'est fait, ils ont organisé cette séance-là. C'est une catastrophe pour ces jeunes gens, c'est une catastrophe pour le tennis, quoi.
Ouais, bon, on s'en fout du tennis, mais oui, c'est pas glorieux en tout cas.
Non, c'est pas glorieux.
Alors quelques petites brèves environnementales avant de se quitter. été une petite manif qui a réuni à peu près 3000 personnes à Narbonne vers Toulouse contre Areva. En fait, c'est contre un centre de destruction de déchets d'Areva. Alors, c'est des déchets... alors, c'est de l'histoire. C'est quand on enrichit l'uranium, on le fait donc sous forme de tétrafluorure d'uranium qui devient du combustible nucléaire. Tout ça, pour faire ça, on utilise de l'acide nitrique qui se charge d'éléments radioactifs. Et ensuite, faut se débrouiller, faut faire quelque chose de tout ce qui reste, de tout cet acide nitrique qui est sous forme liquide. Donc là, ils ont décidé de s'en débarrasser en le brûlant avec du charbon. Donc c'est des sortes de voilà, bon, des nitrates radioactifs. Et ben c'est pas terrible de brûler ça avec du charbon. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de particules radioactives, mais peut-être un petit peu. Mais ça émet plein d'oxyde d'azote, ça émet du benzène qui est cancérigène, ça émet de l'arsenic, ça émet des particules fines. Bon, c'est pas terrible. Du coup, les habitants du coin se mobilisent contre le site d'Areva qui s'appelle Malvesi pour essayer de que ça arrive pas. Alors la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces trucs-là. Alors on rappelle qu'il y a une meilleure solution, c'est que quand on décide de lancer un processus industriel sur un produit, on se pose des questions sur les déchets que ça va engendrer et si ces déchets sont après qu'on peut s'en débarrasser facilement. Or Areva et toute la filière nucléaire ne s'est jamais posé de questions sur les déchets. Et là, on se retrouve avec des choses voilà dont on ne sait que faire et dont il faut se débarrasser, et que la débarrassation elle-même engendre encore de la pollution radioactive ou de la pollution environnementale tout court. Donc il y a une mobilisation donc à Narbonne dimanche dernier. Je sais pas s'ils vont gagner quelque chose, mais voilà, ils se sont mobilisés.
Je suis pas sûr pour la débarrassation, par contre.
Ah oui, ok. J'invente des mots, j'ai le droit. Voilà. Toujours sur, en lien avec le nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire devait se prononcer sur la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires de la génération 9000 mégawatts, là. Il y en a pas mal, là, c'est 34 réacteurs qui sont concernés. Et ben, pour l'instant, ils disent non. Ils disent on se prononce pas tout de suite, on va attendre un peu, donc ils repousseraient jusqu'à 2020 ou 2021, alors que ça devait être, normalement être rendu en 2019. Alors on sait qu'il y a des pressions énormes sur l'autorité de sûreté nucléaire, qui est en train de dire que les centrales françaises sont pas si mal. Ils sont quand même inquiets de l'avenir, parce que l'avenir économique est pas bon pour le nucléaire. Sans l'injection de l'argent de l'État, Areva aurait déposé le bilan, serait mort hein, déjà. On rappelle que l'État et que Macron a validé en septembre les 4,5 milliards d'argent public injecté dans Areva. Donc voilà, on sent qu'il y a des pressions, on sent que c'est compliqué et qu'ils repoussent la décision le plus tardivement, au plus tard possible. Donc peut-être en 2021, ils vont nous dire si EDF pourra prolonger au-delà de 40 ans ces vieilles centrales. On rappelle que le nombre d'accidents, d'incidents, pour l'instant c'est des incidents, augmente avec l'âge des centrales. Et donc plus on augmente l'âge, plus on augmente les risques d'incidents, voire d'accidents nucléaires. Et je rappelle cet été, trois incidents de niveau 2 sur une échelle qui en compte 7. 7, c'est Fukushima et toutes les choses comme ça. Mais déjà, de niveau 2, c'est pas rassurant. Voilà. Alors, on parlait du charbon et de l'Allemagne. Les Allemands se mobilisent contre le charbon aussi, notamment les écolos. Il y a la COP23 qui s'est ouverte en Allemagne, et il y a eu des manifestations, notamment dans une mine de charbon qui est proche de Bonn, l'ancienne capitale, qui est détenu par RWE, un gros groupe allemand de production d'énergie électrique. Et voilà, eux, les manifestants demandent que l'Allemagne sorte aussi du charbon. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, l'Allemagne a développé énormément les énergies renouvelables, mais pour remplacer le nucléaire, et a pas encore mis en œuvre un développement du renouvelable et supplémentaire pour remplacer les centrales à charbon. Elle en ferme une ou deux par an, mais pas plus. Donc voilà, il faudrait qu'ils accélèrent. Donc il y a des manifestations d'écolos en Allemagne pour sortir aussi du charbon, puisque maintenant qu'ils ont, eux, obtenu la sortie du nucléaire. Et puis, la dernière petite brève sur les énergies renouvelables aux États-Unis, malgré que Trump essaie de couper tout ce qui a été fait, notamment par Barack Obama. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, que l'éolien et le solaire augmentent aux États-Unis. Alors ça se voit dans les emplois, 24% de plus dans le solaire l'année dernière et 32% de plus dans l'éolien. Et ça se voit aussi dans la production qui augmente de plus en plus aux États-Unis, la production d'électricité d'origine renouvelable. Voilà, il y a des spécialistes qui disent que en fait, les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris, mais en fait, grâce à certains États, ils risquent de respecter ce qui était dans l'accord de Paris, même avec Trump. Voilà. Un petit agenda peut-être, je ne sais pas si tu as quelque chose, Delphine.
Mais il y a une grande journée samedi.
Oui, contre les extrêmes droites, une information grosso modo sur l'extrême droite, les extrêmes droites, différentes formes en Europe. C'est à la salle Jean Couty, métro Gorge du Loup. Il y aura plus d'infos sur internet, vous les trouvez un petit peu partout. Avec, ça commence à 10h et ça finit sûrement tard dans la nuit, vers 22-23h, peut-être plus tard. Et il y a essentiellement des ateliers, des débats et à 18h, une projection d'un film qui s'appelle Fascism Incorporated. Voilà, pour parler un peu toutes les formes actuelles de l'extrême droite et du fascisme, puisqu'ils sont pas mal renouvelés quand même.
Oui, et puis on pourra retrouver l'après-midi dans un atelier un de nos amis
Dacrimed
69, Pascal. Donc voilà, c'est aussi un moyen de retrouver nos petits camarades.
Et c'est toujours dans le mois novembre libertaire, d'ailleurs demain soir, à la librairie La Griffe à 19h30, toujours dans le mois libertaire 2017, il parle de la révolution russe du côté des anarchistes, ceux qui se sont fait exploiter, tués, assassinés par les communistes, qui ont bien souffert de la révolution russe, mais qui ont participé à la révolution russe.
Ouais, puisqu'on retrouvera bientôt nos amis d'Acrimed dans l'émission d'ici la fin de l'année.
Et tout de suite, sur Radio Canu, l'émission anticarcérale.
La petite cuillère. À bientôt.